Chapitre 23. Les premières opérations de forage pétrolier dans le golfe du Mexique, à partir de la fin des années 1930, étaient assez rudimentaires. De simples plateformes en bois implantées en eau peu profonde. Puis, la technologie progressant en même temps que la soif de pétrole des États-Unis, les forages se sont régulièrement éloignés des côtes, et en 2010, plus de 3000 plateformes se dressaient au large du Texas, de la Louisiane, du Mississippi et de l'Alabama, comme autant de châteaux sur pilotis. Elles incarnaient puissamment le poids du pétrole dans l'économie régionale. Des milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois dépendant directement ou indirectement du siphonnage de restes végétaux et animaux convertis par la nature en or noir visqueux sous le plancher océanique. Parmi toutes ces plateformes, l'une des plus impressionnantes se nommait Deepwater Horizon. Haute d'environ 30 étages et plus longue qu'un terrain de football, c'était une structure semi-submersible d'une valeur d'un demi-milliard de dollars qui pouvait opérer jusqu'à une profondeur de 3000 mètres et creuser des puits exploratoires longs de plusieurs kilomètres. Le fonctionnement d'une plateforme de cette taille coûtait à peu près 1 million de dollars par jour, mais les supermajors du pétrole estimaient que c'était de l'argent bien dépensé. Si elles voulaient maintenir leur croissance et leurs bénéfices, il leur fallait exploiter les gisements potentiellement immenses enfouis à des profondeurs jusque-là inaccessibles. Deepwater Horizon appartenait à Transocean, une entreprise basée en Suisse, qui la louait depuis 2001 à BP, une des plus grosses compagnies pétrolières au monde. BP s'en était servi pour explorer les eaux des États-Unis et avait découvert deux gisements aussi colossaux que lucratifs. À lui seul, le surnommé Tiber contenait, selon les estimations, le chiffre étourdissant de 3 milliards de barils. Pour y accéder, l'équipage de Deepwater avait foré en 2009 un des puits les plus profonds jamais creusés. Presque 11 kilomètres sous 1700 mètres d'eau, soit une distance sous la surface supérieure à l'altitude du mont Everest. Début 2010, espérant réitérer ce succès, BP a envoyé Deepwater Horizon forer un puits d'exploration dans le second champ pétrolifère baptisé Macondo. Situé à 80 kilomètres au large de la Louisiane, Macondo n'était pas aussi loin de la surface que Tiber, à peine 6 millimètres. Mais en matière de forage en eau profonde, la routine n'existe pas. Chaque gisement présente des complexités uniques et exige souvent des semaines de tâtonnement et de calcul, ainsi que des procédures sur mesure. Or, Macondo se révélait particulièrement délicat, à cause notamment de la fragilité de ses formations rocheuses et d'une pression interne irrégulière. Très vite, le projet a pris plusieurs semaines de retard, représentant pour BP des millions de dollars de pertes. Ingénieurs, concepteurs et sous-traitants se disputaient quant à la forme à donner au puits. Malgré tout, le 20 avril, l'ouvrage était pratiquement terminé. Une équipe du parapétrolier Halliburton a scellé les bords du tube de forage en injectant du ciment dans la gueule du puits. Une fois le ciment solidifié, les ingénieurs de BP ont lancé une batterie de tests avant que Deepwater ne reparte vers sa mission suivante. Peu après 17 heures, un de ces tests a révélé une possible fuite de gaz à travers le coffrage en ciment et signalé une situation potentiellement dangereuse. Sans tenir compte des signaux d'alarme, les ingénieurs ont décidé de poursuivre en injectant de la boue de forage lubrifiante qui sert à compenser les déséquilibres de pression durant le forage. Aux alentours de 21h30, il y a eu une puissante remontée de gaz dans le tube. Le bloc obturateur du puits, des valves d'urgence d'un poids de 400 tonnes devant sceller le puits en cas d'augmentation brutale de la pression, n'a pas fonctionné et le gaz combustible à très haute pression est remonté jusqu'à la plateforme où il a propulsé un geyser de lubrifiant noir dans le ciel. Peu après, des nuages de gaz accumulés dans la salle des machines ont pris feu, et deux explosions ont secoué la structure tout entière. Une colonne de flammes a déchiré le ciel pendant que les membres d'équipage se ruaient vers les canaux de sauvetage ou sautaient dans les eaux pleines de débris. Sur les 126 personnes à bord de la plateforme, 98 en sont sorties indemnes, 17 ont été blessées et 11 ont disparu. Deepwater Horizon continuerait de brûler pendant 36 heures, colossale boule de feu et de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. J'étais dans la résidence, tout juste revenu d'une tournée de levée de fonds sur la côte ouest pour les candidats démocrates au Congrès, quand j'ai appris ce qui se passait dans le Golfe. Ma première pensée a été « Oh non, ça recommence ». 15 jours plus tôt, un coup de poussière à la mine d'Upper Big Branch, en Virginie-Occidentale, avait fait 29 morts, soit le plus grand désastre minier depuis presque 40 ans. L'enquête n'en était qu'à ses prémices, mais nous savions déjà que l'exploitant de la mine, Massey Energy, avait un lourd passif de manquement aux normes de sécurité. Deepwater Horizon, pour sa part, n'avait pas connu d'accident grave depuis 7 ans. Je ne pouvais néanmoins m'empêcher de relier les deux événements en pensant au coût humain de la dépendance mondiale aux énergies fossiles. Chaque jour, des milliers de personnes étaient contraintes de risquer leurs membres, leurs poumons et parfois leur vie pour remplir nos réservoirs et alimenter nos ampoules, dégageant au passage des profits délirants pour des cadres et des actionnaires lointains. Je savais aussi que l'explosion aurait des répercussions considérables sur notre politique énergétique. Quelques semaines auparavant, j'avais autorisé, via le département de l'Intérieur, chargé de la gestion des ressources naturelles, la mise en vente de plusieurs concessions maritimes qui allaient marquer le début de l'exploration pétrolifère le long de la côte orientale du Golfe et dans certaines eaux des États atlantiques et de l'Alaska. J'honorais là une promesse de campagne. À un moment où les prix de l'essence flambaient et où la proposition McCain-Palin d'ouvrir les eaux des États-Unis au forage à grande échelle gagnait du terrain dans l'opinion, je m'étais engagé à envisager une expansion contenue des forages dans le cadre d'une stratégie énergétique tous azimuts. Il faudrait des décennies pour accomplir la transition vers des énergies propres. D'ici là, l'idée d'accroître la production américaine de pétrole et de gaz afin de nous rendre moins tributaires des pétro-États tels que la Russie et l'Arabie Saoudite ne me posait aucun problème. Et surtout, ma décision d'autoriser de nouveaux forages exploratoires était une tentative désespérée de sauver notre loi sur le réchauffement climatique, alors sous assistance respiratoire. L'automne précédent, quand le sénateur républicain Lindsey Graham avait accepté de nous aider à faire passer un projet transpartisan, il nous avait averti que nous devrions céder sur certains points si nous voulions obtenir un nombre suffisant de votes républicains pour éviter l'obstruction, et l'augmentation des forages trônait tout en haut de sa liste. Prenant Graham au mot, Joe Lieberman et John Kerry avaient travaillé pendant des mois en tandem avec Carol Browner pour convaincre les associations écologistes que ces compromis valaient le coup, leur faisant observer que les avancées technologiques avaient réduit les dangers des forages en mer et que le texte final interdirait aux compagnies pétrolières les zones sensibles telles que la réserve naturelle de l'Arctique. Certaines de ces associations étaient prêtes à jouer le jeu. Hélas, plus les mois passaient et plus il devenait évident que Graham ne remplirait pas sa part du marché. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé. Il avait tenté de faire accepter un accord aux compagnies pétrolières et courtisait les républicains modérés, Suzanne Collins ou Olympia Snowe par exemple, ainsi que les sénateurs des États pétroliers comme Lisa Murkowski de l'Alaska, dans l'espoir qu'ils soutiennent le projet de loi. Mais en dépit de toutes les concessions que Kerry et Lieberman étaient prêts à consentir, Graham n'avait pas trouvé preneur au sein du GOP. Le prix à payer pour la collaboration avec mon gouvernement demeurait trop élevé. D'ailleurs, le travail de Graham sur le projet de loi commençait à lui attirer les foudres de ses électeurs comme de la presse conservatrice. Ses exigences pour rester avec nous étaient de plus en plus grandes, et Kerry avait du mal à retenir les associations écologistes de claquer la porte. Même l'annonce que nous entamions les démarches d'ouverture de nouvelles zones de forage avait fait hurler Graham. Au lieu d'y voir une marque de bonne volonté, il s'était plaint de ce que nous lui coupions l'herbe sous le pied en le privant d'un levier de négociation crucial. Des rumeurs avaient commencé à insinuer qu'il attendait le bon moment pour quitter le navire. Tout cela s'était produit avant l'accident de Deepwater. À présent, alors que tous les journaux télévisés diffusaient les images d'un incendie infernal sur une plateforme pétrolière, nous pouvions être certains que les associations écologistes allaient rejeter tout projet de loi développant le forage en mer. Ce qui, par ricochet, fournissait à Graham une excuse parfaite pour nous planter. J'avais beau retourner la situation dans tous les sens, j'en venais toujours à la même conclusion. Mes chances, déjà maigres, de faire passer une loi sur le climat avant les élections de mi-mandat, venaient de partir en fumée. Le lendemain matin de l'accident, j'ai été quelque peu réconforté d'apprendre qu'une grande partie du pétrole libéré par l'explosion brûlait à la surface de l'océan, allégeant un peu le bilan environnemental que je redoutais. Carole m'a confirmé que les équipes d'intervention de BP et les gardes-côtes américains avaient rapidement rejoint les lieux, que les opérations de recherche et de sauvetage des disparus étaient en cours et que nous étions en contact rapproché avec les autorités locales. Selon les termes de la loi fédérale adoptée à la suite du naufrage de l'Exxon Valdez en 1989 en Alaska, le nettoyage du pétrole déversé incombait intégralement à BP. J'ai toutefois mobilisé les gardes-côtes ainsi que l'EPA et le département de l'Intérieur pour évaluer les dommages et apporter à l'entreprise toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Jugeant que nous avions la situation relativement bien en main, J'ai maintenu mon emploi du temps et me suis rendu à New York le lendemain pour prononcer un discours sur la réforme de Wall Street. Mais à mon arrivée, la catastrophe avait empiré. Fragilisée par l'incendie qui faisait toujours rage, la structure de Deepwater s'était écroulée et ses 33 000 tonnes avaient sombré, dégageant une fumée noire et endommageant sans aucun doute le socle sous-marin. Alors que les inconnus se multipliaient à toute vitesse, j'ai demandé à Ram de préparer pour mon retour un briefing avec le commandant des gardes-côtes, l'amiral Tad Allen, ainsi que Janet Napolitano et Ken Salazar, à la tête du département de l'intérieur, chargés de superviser les opérations de forage en mer. Le seul créneau possible pour cette réunion était à 18h, juste après que je me serais exprimé devant les quelques centaines de personnes que nous avions invitées à une réception dans la roseraie, en l'honneur du 40e jour de la Terre. Je n'étais pas d'humeur à relever cette ironie cosmique. « C'est une sacrée tournée d'adieu qu'on vous offre, Tad », ai-je dit à l'amiral Allen en lui serrant la main tandis que le reste du groupe pénétrait dans le bureau ovale. Solide, rubicon et moustachu, Allen devait prendre sa retraite un mois plus tard, après 39 ans de service chez les gardes-côtes. « J'espère que nous allons réussir à remettre de l'ordre dans ce bazar avant mon départ, monsieur le président », a-t-il répondu. J'ai fait signe à tout le monde de s'asseoir. La tonalité s'est assombrie lorsque Allen nous a expliqué que les gardes-côtes avaient peu d'espoir concernant les opérations de sauvetage. Trop de temps s'était écoulé, les 11 membres d'équipage manquants n'avaient pas pu survivre en haute mer. Quant au nettoyage, BP et les équipes d'intervention des gardes-côtes avaient déployé des bateaux spéciaux pour écumer le pétrole restant à la surface de l'eau. Des avions devaient bientôt commencer à larguer des dispersants chimiques pour diviser le pétrole en gouttes plus petites. Enfin, les gardes-côtes, en coopération avec BP et les États touchés, mettaient déjà en place des estacades, des barrières flottantes faites d'éponges et de plastique, pour éviter que le pétrole n'atteigne le rivage. « Et pour la responsabilité légale, que dit BP ?» ai-je demandé à Salazar. Le cheveu rare, lunettes sur le nez, il était de nature enjouée et affectionnait les chapeaux de cow-boy et les cravates lacets. Ken avait été élu au Sénat en 2004, la même année que moi. C'était un collègue fiable, et je m'étais dit qu'il serait parfait pour le poste de secrétaire à l'intérieur, d'autant plus qu'il avait dirigé le département des ressources naturelles du Colorado avant de devenir le premier procureur général hispanique de cet État. Il avait grandi dans les plaines somptueuses de la vallée de San Luis, au cœur du Colorado, où certaines branches de sa famille étaient implantées depuis les années 1850, et il connaissait intimement ce double élan d'exploiter et de préserver les terres fédérales qui avait tant façonné l'histoire de la région. « J'ai eu de leurs nouvelles aujourd'hui, monsieur le Président », a répondu Salazar. « Ils ont confirmé qu'ils prendront en charge tout ce qui n'est pas couvert par le Fonds national d'indemnisation. C'était une bonne nouvelle. Bien que chaque compagnie ait l'obligation de nettoyer les dégâts liés à ces déversements d'hydrocarbures, le Congrès avait décrété que les dommages et intérêts qu'elle devrait verser à des tierces parties telles que les pêcheurs ou les entreprises côtières ne pourraient dépasser le montant misérable de 75 millions de dollars. En contrepartie, les compagnies pétrolières devaient abonder un fonds commun servant à couvrir les dégâts jusqu'à 1 milliard de dollars. Mais Carol nous avait déjà prévenu que si la marée noire n'était pas maîtrisée, cela ne suffirait probablement pas. En obtenant dès à présent que BP s'engage à payer la différence, nous pourrions au moins assurer aux États touchés que leur population serait dédommagée. À la fin de la réunion, j'ai demandé à tous de me tenir informés des prochains développements et je leur ai rappelé de mettre à contribution toutes les ressources fédérales disponibles pour atténuer l'impact économique et environnemental de la catastrophe. Tandis que je les raccompagnais à la porte, j'ai remarqué que Carol était pensive. Je lui ai proposé de rester un instant pour parler en privé. « Est-ce qu'on a omis quelque chose ?» lui ai-je demandé. « Pas vraiment, » a répondu Carol. « J'ai juste l'impression qu'on ferait mieux de se préparer au pire. »« Comment ça ?» Elle a haussé les épaules. « D'après BP, le puits ne devrait pas fuir. Et si on a de la chance, c'est ce qui va se passer. » Mais on parle d'un tube d'1,5 km de long qui descend jusqu'à un puits au fond de l'océan. Donc je doute qu'il soit sûr de quoi que ce soit. Et s'il se trompe, s'il y a une fuite sous la surface? S'ils ne réussissent pas à sceller le puits rapidement, a dit Carol, alors on va avoir un vrai cauchemar sur les bras. Moins de deux jours plus tard, les peurs de Carol ont été confirmées. Macondo a commencé à libérer son pétrole, et pas au compte-gouttes. Dans un premier temps, les ingénieurs de BP ont identifié que la fuite provenait d'une cassure du tube qui s'était produite au moment où la plateforme avait coulé et qui, selon leurs estimations, déversait chaque jour l'équivalent d'1 millier de barils dans le golfe. Le 28 avril, des caméras sous-marines ont découvert deux nouvelles fuites et les estimations sont montées à 5000 barils par jour. En surface, la nappe avait désormais une superficie d'environ 1500 km² et se rapprochait dangereusement des côtes de la Louisiane, empoisonnant les poissons, les dauphins et les tortues, et menaçant de causer des dégâts durables aux bayous, estuaires et criques qui constituaient l'habitat de nombreux animaux. Plus alarmant encore, BP ne semblait pas savoir combien de temps il faudrait pour boucher le puits. La compagnie envisageait diverses possibilités, utiliser des véhicules commandés à distance pour réparer le bloc obturateur, combler le trou avec de la gomme ou un autre matériau, placer un dôme de confinement au-dessus du puits de façon à canaliser le pétrole vers la surface où il serait recueilli, ou encore creuser des puits transversaux et y couler du béton pour bloquer l'afflux de pétrole. Cependant, d'après nos experts, rien ne garantissait que les trois premières options fonctionnent, et la quatrième risquait de prendre plusieurs mois. Vu la vitesse à laquelle jaillissait le pétrole, la fuite pourrait alors s'élever à 86 millions de litres, soit environ 70% de plus que l'Exxon Valdez. Soudain, nous faisions face à ce qui s'annonçait comme la pire catastrophe environnementale de l'histoire des États-Unis. Nous avons nommé Tad Allen commandant des interventions, imposé un moratoire de 30 jours sur les nouveaux forages en mer, ainsi qu'une interdiction de pêcher dans la zone contaminée, et déclaré le désastre de Macondo catastrophe d'importance nationale. Le gouvernement fédéral est intervenu pour coordonner l'action de nombreuses entités administratives, auxquelles s'ajoutaient des volontaires civils. Bientôt, plus de 2000 personnes s'activaient jour et nuit pour contenir la marée noire, avec une armada de 75 bâtiments, dont des remorqueurs, des barges et des écumeurs, plus des dizaines d'avions et 83 kilomètres de barrières flottantes. J'ai envoyé Napolitano, Salazar et Lisa Jackson, de l'EPA, pour surveiller le travail, et dit à Valérie que je voulais qu'elle s'entretienne tous les jours avec les gouverneurs de la Louisiane, de l'Alabama, du Mississippi, du Texas et de la Floride, qui se trouvaient être cinq républicains, pour leur demander ce que nous pouvions faire de plus. Et dis-leur que s'ils ont un problème, je veux être mis au courant directement. Je veux qu'on soit tellement présent et réactif qu'ils en auront marre de nous avoir au téléphone. Il n'est pas exagéré de dire que le 2 mai, lorsque j'ai visité un poste des gardes-côtes à Venice, en Louisiane, afin d'observer les opérations de plus près, nous avions mis toutes nos forces dans la bataille. Comme c'était le cas pour la plupart de mes déplacements, mon but n'était pas tant de recueillir de nouvelles informations que de transmettre notre sollicitude et notre détermination. Après une déclaration à la presse sous une pluie battante, j'ai discuté avec un groupe de pêcheurs qui avait été engagé par BP pour disposer des barrières sur le trajet de la nappe de pétrole. Sans surprise, ils redoutaient les conséquences à long terme de cette marée noire sur leur mode de subsistance. Ce jour-là, j'ai aussi passé un long moment avec Bobby Jindal, un ancien parlementaire et expert des politiques de santé sous le gouvernement Bush, qui avait tiré profit de son conservatisme acéré pour devenir le premier gouverneur indo-américain du pays. Intelligent et ambitieux, âgé de moins de 40 ans, Jindal était considéré comme une des étoiles montantes du GOP, et c'est lui qui avait été choisi pour prononcer la réponse de son parti à mon premier discours devant le Congrès réuni. Mais l'accident de Deepwater, qui menaçait des secteurs vitaux pour la Louisiane, comme le commerce des fruits de mer et le tourisme, le plaçait dans une position délicate, car, à l'instar de la majorité des politiciens républicains, il défendait ardemment les supermajors du pétrole et s'opposait avec la même vigueur au durcissement des normes environnementales. Cherchant à devancer un revirement de l'opinion publique, Jindal a consacré une grande partie de notre entretien à me présenter son projet de construction d'une île barrière, une berme, le long d'une partie du littoral louisianais. Il me certifiait que, de cette façon, la marée noire n'atteindrait pas les côtes. « On a déjà les prestataires pour la fabriquer », m'a-t-il dit. Il paraissait confiant, presque trop sûr de lui, mais ses yeux sombres trahissaient une méfiance, voire une souffrance, même quand il souriait. « Nous avons seulement besoin que vous nous aidiez à obtenir l'approbation du génie militaire et que BP la finance. » J'avais déjà eu vent de cette idée de berme. D'après les premières évaluations de nos experts, elle était irréalisable, chère et potentiellement contre-productive. Je soupçonnais Jindal de le savoir aussi bien que moi. Sa proposition était surtout un geste politique, un moyen de paraître actif tout en esquivant les questions plus générales soulevées par la marée noire à propos des dangers des forages en haute mer. Toutefois, vu l'ampleur de la crise, je ne voulais pas qu'on me voie rejeter d'emblée cette idée, et j'ai promis au gouverneur que le génie se pencherait au plus vite sur son projet. La météo étant trop mauvaise pour faire décoller Marine One, nous avons passé presque toute la journée en voiture. Assis à l'arrière du SUV, je regardais défiler la membrane irrégulière de végétation, boue, vases et marécages qui tapissaient les berges du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Depuis des siècles, les humains se battaient contre ce paysage ancien pour le plier à leur volonté, comme Jindal proposait à présent de le faire avec sa berme. Ils élevaient des digues et des barrages, creusaient des fossés et des écluses, construisaient des ports, des ponts, des routes et des autoroutes pour les besoins de leur commerce et de leur expansion. Et ils reconstruisaient après chaque ouragan, après chaque crue, sans se laisser démonter par les marées implacables. J'ai songé qu'il y avait dans cette obstination une certaine noblesse, une manifestation de l'esprit entreprenant qui avait bâti l'Amérique. Mais face à l'océan et au puissant fleuve qui s'y jetait, les victoires des ingénieurs étaient toujours éphémères et leur maîtrise illusoire. La Louisiane perdait plus de 4000 hectares de terre chaque année, à mesure que le réchauffement climatique faisait monter le niveau des eaux et augmentait la violence des ouragans dans le golfe. Entre les dragages, la construction de digues et les déviations constantes du cours du Mississippi afin de faciliter le passage des bateaux, il y avait moins de sédiments qui descendaient de l'amont pour se substituer aux terres perdues. Cette activité qui avait fait de la région une plaque tournante pour le commerce et faisait prospérer l'industrie pétrolière accélérait désormais la progression régulière des eaux. Tandis que je regardais par la vitre zébrée de pluie, je me suis demandé combien de temps il faudrait pour que la route sur laquelle je roulais, bordée de stations-service et de supérettes, soit à son tour engloutie par les vagues.